universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 juin 2014. Ici chez Robin Dorsil
et Morgane Guériec.
Au sommaire ce soir.
Le cycle de la violence continue au Nigeria. Une explosion aurait fait au moins 21 morts aujourd'hui à Abuja.
Arrestation à Bamako du terroriste présumé Mohamed Ali Agroadosen.
Mohamed Ali est un déserteur de la garde nationale du Mali. Il est du contingent 2009.
En RCA, le bilan s'alourdit après les affrontements de Bambari.
En Irak, face à la menace djihadiste et les pressions internationales, Nouri al-Maliki refuse de former un gouvernement d'union.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, déception en Côte d'Ivoire après l'élimination des éléphants.
Toujours le même problème, c'est la défense, vraiment le penalty. Je pense que c'est un coup de pouce de l'arbitre. Très déçu de la prestation des Ivoiriens.
Le Nigeria confiant pour le deuxième tour malgré la défaite face à l'Argentine.
Sans conséquence, Bosnie 3, Iran 1.
Et bien sûr, la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Forte explosion à Abuja, la capitale du Nigeria. L'AFP, citons les sources, les autorités locales, fait état de 21 morts pour le moment. L'incident s'est produit dans un centre commercial non loin du siège du gouvernement. L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence affirme que toutes les victimes ont été secourues et transportées hors du site. 40 voitures ont été détruites, disent les autorités.
Au Mali, arrestation du terroriste présumé Mohamed Ali Agroadosen, principal instigateur de l'évasion du 16 juin dans la prison centrale de Bamako. Les forces militaires maliennes en alerte depuis cette date ont mis la main sur le fugitif dans le quartier Amdalaï. Il a été aussitôt conduit au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Kassim Traoré.
Après avoir provoqué l'évasion massive le lundi 16 juin 2004 à la maison centrale d'arrêt de Bamako, en tirant sur un gardien pénitentiaire, le terroriste Mohamed Agwasdem, qui était depuis dans la nature, a finalement été appréhendé dans la nuit du mardi au mercredi à Bamako, précisément à l'ACI 2000 par la gendarmerie et les forces spéciales. Il a été retrouvé dans une maison armée de pistolets. Au cours de cette opération, il y a eu des échanges de jets de grenades entre Agwasdem et les forces spéciales au moment de son arrestation. Sa compagne a été tuée lors des échanges de coups de feu. C'est après qu'il a été maîtrisé par les militaires maliens. Il était méconnaissable puisqu'il a rasé sa tête et la barbe. Il se trouve actuellement au camp 1 de la gendarmerie du Mali. De nationalité malienne, Mohamed Ali Wassoudem est né le 9 avril 1989 à Kidal. Mohamed Ali est un déserteur de la garde nationale du Mali. Il est du contingent 2009. Bamako, Kassim Traoré, la voix de l'Amérique.
En RCA, le bilan est révisé à la hausse après les affrontements à Bambari. Il y aurait plus d'une soixantaine de morts, plusieurs blessés et des dizaines de maisons incendiées. Le point avec Idriss Fall.
En dépit du calme précaire à Bambari, la tension est montée d'un cran aujourd'hui. Selon une source religieuse, les violences ont fait plus de 60 morts, environ 80 blessés, des dizaines de maisons incendiées et près de 20 000 déplacés dans trois sites. Des miliciens anti-Balaka sont signalés à l'entrée de Bambari vers le pont Waka. À Bangui, Anissé Pounembella, président du collectif des ressortissants de la Waka, appelle les autorités de la transition et les forces internationales à prendre leurs responsabilités.
Nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour arrêter ce génocide. Aux forces internationales, à travers la MISCA, Sangaris et encore aujourd'hui, effort d'appliquer la résolution 21-27 du Conseil de sécurité afin de rétablir la sécurité, non seulement en RCA, mais particulièrement dans la Waka, parce que c'est dans la Waka que ce dernier temps, ça ne marche pas.
Le collectif demande aux ressortissants de la Waka vivant à Bangui d'observer à partir de ce jeudi 3 jours de deuil à la mémoire des victimes.
Élections législatives ce mercredi en Libye alors que le pays peine à maîtriser les milices qui s'affrontent depuis la chute de Muammar Kadhafi. Camille Grosdidier.
Plus de 1600 candidats sont en lice pour les 200 sièges de la nouvelle Assemblée où 32 sièges sont destinés à des femmes. Les dernières législatives remontent à 2012 et on reproche au Congrès national qui était issu de ce vote de n'avoir pu mettre un terme à l'instabilité, y compris la dispute le mois dernier sur la sélection d'un Premier ministre. Quelque 1,5 million d'électeurs sont appelés à voter, mais ceux de l'Est du pays pourraient éprouver des difficultés à joindre les bureaux de vote en raison de la violence dans la région. Les milices tribales qui ont contribué à renverser M. Kadhafi en 2011 ont établi leurs fiefs respectifs dans différentes villes du pays.
Et c'est dans ce contexte électoral que des affrontements ont éclaté à Benghazi entre forces libyennes et un groupe islamiste. Une source hospitalière citée par l'AFP fait état de 3 soldats tués et 7 autres blessés.
L'Assemblée constituante tunisienne a adopté le calendrier électoral pour doter la Tunisie d'institutions pérennes plus de 3 ans après la révolution, Bagassi Koura.
Oui, après plusieurs mois de divergences entre les partis politiques, le projet de loi sur le calendrier électoral était très attendu. Finalement, ce mercredi, les législatives ont été fixées au 26 octobre. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 23 novembre et s'il y a lieu, un second tour devrait se tenir avant la fin de l'année. L'inscription sur les listes électorales a débuté le 23 juin et doit s'achever le 22 juillet. La Tunisie a traversé une grave crise politique en 2013 avec l'assassinat de 2 opposants de gauche et l'essor de la mouvance salafiste. L'accord intervenu entre les différents partis politiques avait permis l'adoption d'une nouvelle constitution et avait conduit les islamistes d'Ennahda, vainqueurs des premières élections libres en octobre 2011, à céder le pouvoir à un gouvernement d'indépendants en début d'année. Le pays cherche à se doter d'institutions pérennes depuis la révolution de janvier 2011 qui avait chassé du pouvoir le dictateur Zinedine Ben Ali qui vit en exil en Arabie Saoudite.
Une cellule dite terroriste a été démantelée au Maroc. D'après le gouvernement, ce groupe envoyait des volontaires se battre en Irak et en Syrie. Une fois sur place, les nouvelles recrues y reçoivent un entraînement militaire et apprennent à fabriquer des bombes, explique le communiqué du ministère de l'Intérieur cité par l'AFP. Un phénomène qui inquiète Rabat, anticipant le retour de ces islamistes marocains ayant combattu en Syrie, où il serait plus d'un millier.
En Égypte, un copte condamné à 6 ans de prison pour avoir insulté le prophète Mahomet sur Facebook, c'est ce qu'a indiqué son avocat à l'AFP. La publication du jeune homme âgé de 29 ans avait provoqué des heurts confessionnels dans son village, dans le sud de l'Égypte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a rejeté la formation d'un gouvernement de salut national pour aider son pays à faire face à la progression des militants islamistes sunnites. Michel Joseph.
Pour M. Maliki, un tel gouvernement serait inconstitutionnel et contraire aux résultats des législatives du 30 avril, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Son bloc est arrivé en tête à ces élections. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le président Barack Obama n'ont cessé de l'exhorter à former un gouvernement inclusif, c'est-à-dire comprenant des représentants des minorités sunnites et kurdes. Ainsi, les profondes divergences qui minaient l'Irak bien avant l'offensive djihadiste restent entières. Malgré tout, les premiers éléments de quelques 300 conseillers militaires américains sont déjà à pied d'œuvre en Irak. Les États-Unis, par ailleurs, effectuent entre 30 et 35 missions de reconnaissance par jour au-dessus de l'Irak. Signalons que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant et ceux du front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ont décidé de fusionner à Boukamal, principale localité à la frontière entre la Syrie et l'Irak.
Le secrétaire d'État américain a déclaré ce mercredi que le président russe doit prouver son engagement total pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Il faut des actes et non des paroles, a dit John Kerry à Bruxelles lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Auparavant, le chef de la diplomatie ukrainienne, Pavlo Klimkin, avait réagi positivement à la décision de la Chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération, qui a révoqué l'autorisation d'envoyer des troupes russes en Ukraine. Vladimir Poutine en avait fait la demande en début de semaine.
L'OTAN renforce ses liens avec la Géorgie, mais sans offrir à l'ancienne République soviétique le statut de membre à part entière. L'alliance militaire occidentale propose en revanche un appui substantiel à Tbilissi. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ajoutant que les détails de ce plan seront finalisés dans les prochaines semaines. En 2008, l'OTAN avait promis de soutenir l'adhésion de la Géorgie après une brève guerre contre la Russie. Cependant, depuis le début de la crise en Ukraine, certains membres de l'Alliance craignent de provoquer inutilement Moscou par une telle action.
Élection primaire ici aux États-Unis, le Tea Party n'a pas réussi à écarter de la course le sénateur républicain Thad Cochran du Mississippi. Ce dernier, après avoir perdu au premier tour, a dû faire appel aux démocrates pour remporter le second tour hier. Son adversaire Chris McDaniel dénonce des dizaines d'irrégularités. À New York, le vétéran démocrate Charlie Rangel semble avoir survécu face à Adriano Espaillat, qui refuse d'accepter sa défaite. Dans l'Oklahoma, le député républicain James Lankford a remporté le droit de briguer en novembre prochain le siège du sénateur Tom Coburn, qui part à la retraite.
Le nouvel ambassadeur américain en Chine, Max Baucus, qualifie de menace grave à la sécurité nationale des États-Unis le cyberespionnage commercial mené par Pékin. S'adressant à un groupe d'entrepreneurs, le diplomate américain a reconnu l'existence de désaccords sérieux sur la question entre les États-Unis et la Chine. Il y a un mois, Washington avait accusé 5 officiers militaires chinois d'espionnage contre des entreprises américaines.
Pour la première fois dans l'histoire des relations sino-taïwanaises, une délégation ministérielle chinoise séjourne à Taipei. Les premiers pourparlers politiques entre la Chine et Taïwan depuis la guerre civile de 1949, rappelons-le, ont eu lieu à Pékin en février dernier. Voilà pour le journal. Il est 18h41, temps universel, 14h41, ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Morgane Guériec, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Maintenant, la partie magazine de notre émission.
En Afrique du Sud, les travailleurs de la mine de platine de Maracana ont repris le travail après une grève de 5 mois, Gabi.
Un accord a été signé en effet pour mettre fin à la plus longue et la plus coûteuse des grèves dans la nation arc-en-ciel. Le pays doit faire face maintenant à l'impact de cette longue hibernation et éviter une telle impasse à l'avenir, Jean-Roger Bion.
70 000 mineurs avaient rangé le 23 janvier leurs outils de travail pour exiger un meilleur salaire et d'autres avantages. Après des mois d'impasse, le syndicat des mineurs et du secteur de la construction, AMCU, a finalement signé un accord ce 24 juin avec les patrons de Lonmin, Anglo-American Platinum et Impala Platinum. À Maricana, c'est la fête et le soulagement suite à l'arrêt de la grève. Le contrat de 3 ans accorde aux travailleurs une augmentation annuelle de salaire de l'ordre de 94 $ par mois pour les 3 prochaines années. C'est une augmentation de 20% en deçà des 100% que le syndicat exigeait à l'origine. Pour le leader syndical Joseph Matunjua, l'accord est un franc succès.
Je dirais que c'est une percée parce que nous avons réussi à nous défaire de cette domination héritée de la colonisation du Parti national et que les 20 dernières années de notre démocratie n'ont pas pu vaincre. C'est donc une percée.
La grève a coûté environ 2,3 milliards de dollars et les producteurs devront faire face à des restructurations, ce qui va conduire inévitablement à des suppressions d'emplois et ouvrir la voie à d'autres débrayages. Cette fronde sociale a eu un impact énorme dans le pays et a conduit à des appels pour combler le vide juridique afin de permettre aux tribunaux ou à l'État d'intervenir pendant les grèves prolongées et coûteuses. Lon Sharp, un économiste, pense que quelque chose doit changer.
Ce type d'affaires doit être géré par les juridictions constitutionnelles. Celles-ci ont besoin de mettre en œuvre des lignes directrices sur la façon d'équilibrer ces droits.
L'influence des syndicats est aussi mise à mal par les observateurs qui estiment que la surenchère pourrait leur faire perdre leur poids dans le monde du travail en Afrique du Sud.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Fraude massive aux examens scolaires au Mali, notamment au diplôme d'études fondamentales et au baccalauréat. Des fraudes survenues cependant après un renouvellement à grande échelle opéré par la ministre de l'Éducation, des premiers responsables de gestion de l'appareil éducatif.
Au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale hier, le député Brahima Beridogo a interpellé le ministre togolais, la ministre togolaise Jacqueline Marie Nana sur la débâcle des examens de fin d'année. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a suivi ces vifs échanges au Parlement.
Oui, nous rappelons que c'est la ministre malienne.
Pour cette séance d'interpellation, le député Brahima Beridogo de l'opposition avait des questions à poser au ministre de l'Éducation nationale.
Au vu de la cacophonie sans précédent suite à la fuite des sujets d'examen du DEF et du baccalauréat, l'opération de renouvellement opéré a-t-elle été menée avec le discernement et le réel souci de compétence et d'efficacité qui aurait dû y présider? Si oui, qu'est-ce qui explique cette fuite massive? Les diplômes délivrés dans ces conditions sont-ils crédibles? Comment compte Madame le ministre gérer ce problème et assainir de manière générale son département?
Les fuites de sujets et les fraudes lors des examens ne datent pas d'aujourd'hui. C'est ce que pense le ministre de l'Éducation nationale, Jacqueline Marie Nana Togola.
La fuite des sujets du DF 2014 est celle qu'on observe depuis 20 ans au Mali. Elle n'est pas nouvelle à ce que je sache. Si cette année, il y a eu tout ce bruit, tous les examens, c'est parce qu'au département, nous avons infiltré des milieux, ratissé des cybercafés et trouvé parmi des dizaines de faux sujets qui font aussi l'objet d'un commerce juteux en période d'examen.
La patronne de l'éducation dit avoir engagé une lutte sans merci contre toutes sortes de fraudes. Elle a présenté aux élus de la nation les fruits de son premier combat.
Ceci est un ordinateur saisi sur les fraudeurs que vous pourrez avoir à disposition, honorable Beridogo. Et j'ai sur moi une longue liste d'élèves qui avaient déjà passé au DF et au baccalauréat avant la programmation des résultats. Et nous avons retrouvé la somme de 7 millions déjà qui a été collectée avec les parents d'enfants, avec tout ce qui était intéressé. Donc, 350 000 francs par élève.
Les députés de Kadjolo pensent que le renouvellement à grande échelle opéré par le ministre de l'Éducation, des premiers responsables de la gestion de l'appareil éducatif, n'est pas pour rien. Brahima Beridogo.
Si vous voulez un sujet, vous payez 3 000 francs, on vous l'envoie. Et sur votre téléphone, et ce numéro, on vous l'a donné, madame le ministre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Il y a bel et bien fuite au niveau du bac. Des centres ont eu des retards de plus d'une demi-journée. Des candidats ont commencé à la lueur des bougies. Les lampes à pile, ce qu'on appelle communément les torches. Les écrans de téléphone qui étaient interdits. On a tout oublié de mettre les téléphones pour composer. Et nous avons vu sur le terrain, les sujets ont circulé d'une académie, des académies au centre d'examen, en dehors des enveloppes.
À la fin de cette interpellation, les députés veulent mettre en place une commission d'enquête sur les mots qui minent l'école malienne, car sa gestion doit sortir des considérations politiques. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, il y a un an, l'ONU intervenait au Mali. Quel bilan pour la MINUSMA ? Au programme également, le nécessaire suivi de la Coupe du Monde au Brésil. Rendez-vous donc avec nos invités ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Retour ce soir sur cette affaire de trafic de bébés entre le Nigeria et le Niger. Plusieurs personnes sont mises en cause et la police a procédé à des arrestations à Niamey. L'affaire a été révélée par le journal nigérien L'Événement. Timothée Donangmaï a parlé à son directeur de publication, Moussa Aksar.
Depuis ce matin, aux environs de 12 heures, au moins la trentaine de présumés trafiquants de bébés a été déférée au tribunal de grande instance de Niamey, où ils sont actuellement en train d'être auditionnés par le juge après qu'ils aient été gardés pendant au moins 48 heures à la police judiciaire pour le besoin de l'enquête.
Votre enquête vous a mené au Nigeria notamment, où l'on parle de véritables usines à bébés. Qu'en est-il exactement?
Bon, c'est suite à notre travail d'investigation au mois de janvier, il y a 7 mois de cela, nous avons appris qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à procréer et qui partent au Nigeria voisin acheter des bébés et venir ici leur faire de certificats de nationalité, des actes de naissance, avec la complicité de certains fonctionnaires au sein de l'administration. Donc, à partir de cet instant, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe et nous avons compris qu'il y a toute une toile qui s'étend du Niger au Nigeria, le Bénin, et même certaines personnalités au Burkina Faso et voisins. Donc c'est plusieurs personnes qui sont impliquées, dont des personnalités de premier rang, Vous avez l'épouse de l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'épouse du ministre Abdoulamo, qui est ministre d'État en fonction actuellement, des épouses des anciens DG et des ministres, et même un policier en fonction qui sont impliqués dans ce trafic-là, plus les faussaires. Il y a des faussaires, il y a aussi ceux qui sont impliqués, les fonctionnaires, qui ont pu faire à ce bébé-là, une fois arrivé au Niger, des actes de naissance, ils ont fait du faux.
On parle de plusieurs millions de francs CFA dans ces transactions, qu'en est-il?
Vous avez des accompagnatrices et des intermédiaires. C'est vraiment un circuit bien organisé. Et un bébé, ça dépend. Si vous avez besoin d'un sexe féminin ou masculin, le sexe masculin coûte plus cher que le sexe féminin. Et si vous avez besoin d'une paire de jumeaux, là encore, il vous faut débourser plus d'argent. Donc, c'est en fonction de votre besoin. Vous faites la commande et vous partez récupérer ces bébés dans des usines au Nigeria où on les fabrique, où également la police a eu de ce pays-là et a démantelé ce vaste réseau-là.
Voilà, c'était Moussa Aksar, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement à Niamey au Niger.
Et comme chaque jour, ce thème annonce le journal de la Coupe du Monde avec Bagassi Koura, ses invités et bien sûr notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Je crois qu'on a le sourire aujourd'hui. Direction tout de suite le Brésil où on retrouve notre envoyé spécial Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Nicolas, la bonne nouvelle, c'est la qualification en huitième de finale du Nigeria.
Et oui, les Super Eagles qui se sont inclinés 3-2 devant l'Argentine, mais qui sont qualifiés en raison de la logique victoire 3-1 de la Bosnie-Herzégovine contre l'Iran. Une nouvelle fois, Lionel Messi a brillé, auteur d'un doublé, mais les Nigérians n'ont pas démérité sur cette rencontre. Rapidement mené après la troisième minute de jeu, c'est Moussa qui a réduit le score, puis Messi a répliqué et Moussa a également repliqué avant que finalement, en deuxième mi-temps, les Argentins ne gagnent 3-2. C'était une belle équipe nigériane. Il va falloir suivre son huitième de finale, évidemment, contre la France ou l'Équateur. Ce sera tout à l'heure pour les matchs du groupe E.
Voilà, vous l'avez dit, dans l'autre rencontre, l'Iran s'est fait battre par la Bosnie, 3-1. Et puis Nicolas, difficile d'oublier ce coup dur hier soir avec cette élimination in extremis des éléphants de Côte d'Ivoire.
Ah oui, Abidjan a pleuré, l'Afrique a tremblé évidemment. Les Ivoiriens qui étaient menés 1-0 après la première mi-temps, ils avaient fait le plus dur, ils pensaient avoir fait le plus dur. Après l'égalisation de Boni à la 72e minute, oui mais voilà, les dieux étaient avec les Grecs, puisque les Grecs ont obtenu un pénalty dans les arrêts de jeu, un pénalty bien litigieux, Bagassi, il faut le dire, pour une faute
Nicolas,
un peu imaginaire sur Samaras.
Oui, je dirais tout simplement un pénalty imaginaire.
Voilà, tout à fait, pénalty imaginaire, mais pénalty transformé et pénalty qui envoie les Ivoiriens à Abidjan. Grosse déception pour la bande à Didier Drogba qui n'aura jamais gagné quelque chose dans compétition internationale. Sabri Lamouchi a annoncé hier soir qu'il ne continuait pas l'aventure avec les Ivoiriens. C'est donc une bien sombre soirée à vite oublier pour le football ivoirien.
Voilà, et Nicolas, vous restez avec nous et on va voir comment ce match a été vécu à Abidjan avec notre correspondant sur place, Germain Dré.
Les Ivoiriens sont déçus de la prestation des éléphants face à la formation grecque. Pour eux, la défense de leur équipe a été défaillante. Guillaume Koulibaly.
Toujours le même problème, c'est la défense. Vraiment, le pénalty. Je pense que c'est un coup de pouce de l'arbitre.
Sanogo Ahmed pense que tout devrait se jouer à la première mi-temps.
C'est la première mi-temps qu'on devait marquer. Ils ont joué mal. On nous a découragés même. Moi, je suis découragé.
Aboubakar, qui est au premier. Très déçu de la prestation des Ivoiriens.
Djumouré Tchimoko. Il s'est abattu. Il pouvait gagner la Grèce. La première mi-temps, on n'a pas vu les éléphants jouer.
Pour Alain Diomandé, ce sont les éléphants qui sont incompétents.
Ce sont les Ivoiriens qui ont mal joué, surtout. L'arbitrage n'était pas mal. Ils n'ont pas été compétents.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Voilà, merci à Germain Dri. Vous l'avez entendu, chacun va de son explication. Et nous avons voulu en savoir plus. Nous avons joint Benoît You. Il est de l'ASEC Mimosa pour avoir son appréciation sur cette rencontre.
La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'a pas joué à son niveau. Et notamment, selon moi, ses meilleurs joueurs, qui sont Yaya Touré, Didier Drogba, n'ont pas apporté ce que doit apporter un grand joueur dans une équipe. Quand on regarde l'équipe d'Argentine, Messi joue son rôle. quand on regarde d'autres équipes, Benzema pour la France ou d'autres joueurs, à un moment, il faut que les grands joueurs remplissent leur mission. Je pense que de mon niveau, je pense que Gervinho a joué à son niveau. Par contre, les deux autres grands joueurs ivoiriens, Drogba et Yaya, n'ont pas su apporter ce qu'il fallait.
Voilà, c'était Benoît You de la SEC Mimosa. Voilà, vous suivez le journal de la Coupe du Monde sur la Voix de l'Amérique. Et nous avons en direct du Brésil Nicolas Pino. Nicolas, tout à l'heure, on a deux rencontres, notamment un certain France-Équateur.
Eh oui, dans le groupe E. Les Bleus qui sont en confiance, les Bleus qui vont espérer gagner une troisième fois contre une équipe d'Équateur, ça ne va pas être facile. L'enjeu, évidemment, c'est d'éviter l'épouvantail argentin en huitième de finale. Les Argentins qui ont fini premier, il ne faut donc surtout pas finir deuxième du groupe. Ça vaut également pour les Suisses, mais les Suisses n'ont pas tellement le choix en jouant contre le Honduras. Ils risquent de terminer deuxième s'ils l'emportent. En tout cas, les Français et Didier Deschamps, leur sélectionneur, ne veulent pas tomber dans l'euphorie. Et on va attendre évidemment ce match au Maracana pour voir un peu l'état d'esprit de ces jeunes Français.
Voilà, c'était Nicolas Pino, notre envoyé spécial à la Coupe du Monde au Brésil. Merci Nicolas.
Merci Bagassi.
Et tout de suite, dans le journal de la Coupe du Monde, le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Gouet. Il revient sur cette élimination de la Côte d'Ivoire, mais aussi des grandes d'Europe que sont l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. We celebrate the best African
football. Bonjour. L'hémorragie se poursuit pour le continent européen qui perd son représentant le plus titré. L'Italie aux 4 étoiles, poussée à la sortie par une rugueuse équipe d'Uruguay. Après le champion en titre l'Espagne, d'Iniesta, le lauréat anglais de 1966 et probablement le séduisant Portugal de Cristiano Ronaldo, la sortie des ténors dès la phase de groupe relance la polémique autour du tirage au sort et de la nomination des têtes de série controversées qui aboutit à la formation de groupes déséquilibrés, favorables aux uns, suicidaires pour les autres, avant le début de la compétition. En attendant, l'Afrique tout entière a eu pour son représentant ivoirien les yeux de Chimène lors du match couperet qu'il a opposé à la malicieuse équipe grecque du vétéran Karagounis, rescapé de la sélection championne d'Europe en 2004 au Portugal. Réagissant au collectif tactique des Grecs, excellent en contre, les éléphants ont opposé un jeu en accélération successive face les joyaux de jeu que sont Gervinho, Kalou et Yaya Touré, pas toujours bien récompensés. Un pénalty assassin de Samaras va mettre fin au rêve africain à l'ultime seconde du temps réglementaire. Tous les espoirs désormais sont tournés vers le Nigeria et l'Algérie. À demain.
Alors, Bagassi Koura, y a-t-il encore de l'espoir pour le Ghana?
Oui, bien sûr, il y a de l'espoir, mais vu le faux pas que le Ghana a eu lors de son premier match contre les États-Unis, cette défaite donc 1-0, 2-1 contre les États-Unis, ça va être très difficile parce qu'il y a l'Allemagne qui est devant avec un goal différentiel assez élevé, ensuite suivi par les États-Unis.
Donc un nul serait en faveur des Américains.
Et des Allemands, bien sûr, les deux passeraient. Donc, il y a beaucoup de rumeurs sur un possible arrangement. Ce à quoi, bien sûr, il y a eu un grand démenti de Jürgen Klinsmann, l'entraîneur allemand, qui dit qu'ils vont jouer pour battre son pays natal, l'Allemagne.
De toute façon, ici à la Voix de l'Amérique, on se garde bien des rumeurs. Merci Bagassi Koura pour le journal de la Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Lionel Gaïma. À la console technique, le tandem Lopez et Santos. Écrivez-nous sur Facebook. À la présentation, c'était
Morgane Guiriec
et Chérubin Gabi Dorsil.
Il est